Hello! Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur Creative Girl Club aujourd'hui. C'est un épisode un peu particulier parce qu'on va parler d'amour. C'est un sujet dont j'ai jamais parlé encore aujourd'hui ici. Et en plus, c'est un sujet sur lequel je suis hyper secrète sur ma vie privée. J'en parle quasiment jamais sur mes réseaux. Enfin, je dis rien en fait, quasiment. Donc voilà, un peu un sujet dont j'aime pas spécialement parler, en tout cas en ce qui me concerne. Par contre, les problèmes des autres, j'adore donner mon avis sur les problèmes des autres. Et en plus, je suis la personne que toutes mes copines appellent si elles ont un problème en amour. Donc je pense que j'ai plutôt de bons conseils en général. Enfin, en tout cas, je sais pas si mes conseils sont bons à prendre, mais j'ai quand même décidé de lancer un Dr Love sur Insta. C'est-à-dire que vous avez posé toutes vos questions au sujet de l'amour et je vais vous y répondre dans cet épisode. Alors déjà, merci beaucoup pour tous vos messages parce que franchement, c'est hallucinant le nombre de messages que j'ai reçus. Je pense que j'ai dû en recevoir au moins 500, quelque chose comme ça, des vocaux, des longs messages, des messages courts dans la boîte à questions. Franchement, j'ai eu trop du mal à choisir. Du coup, à la fin, j'ai un petit peu choisi au hasard avec des histoires que je voyais qui se répétaient un petit peu, des histoires similaires. Et j'ai décidé d'en prendre 7 parce que je me suis dit qu'après l'épisode serait trop long. Mais je pense que du coup, je referai une deuxième édition de ce sujet-là vu que ça a l'air de bien vous plaire. Donc voilà, on va commencer avec les 7 questions et il y aura, je pense, un deuxième épisode, une deuxième édition et pourquoi pas une troisième, etc. Et en vrai, si ça vous plaît, pourquoi pas faire ça en format régulier. Alors, on va commencer un petit peu crescendo. J'ai eu pas mal de questions de ce style-là. Je crush sur quelqu'un, mais il me remarque pas. Comment faire? Comment faire pour passer à la vitesse supérieure avec quelqu'un qui me connaît pas du tout? J'aime quelqu'un secrètement, mais il n'est pas au courant. J'ai eu plein de questions un peu de ce style-là, donc je vais essayer de vous répondre un petit peu sur cette thématique de en mode t'aimes bien quelqu'un ou alors t'as l'impression de bien aimer quelqu'un. Mais cette personne soit ne te connaît pas, soit il se passe pas grand-chose et t'as envie que bah ça avance et qu'il se passe un petit peu quelque chose. Déjà, par rapport à tout ça, j'aimerais bien parler d'un concept qui s'appelle le concept de rêve. C'est en fait une projection que l'on fait sur quelqu'un alors qu'on n'est pas dans une relation avec la personne ou alors qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu ce truc d'illusion qu'on a dans notre tête de ce que pourrait être cette relation avec cette personne, ou de ce que pourrait être une histoire d'amour avec telle ou telle personne. Je pense que c'est quelque chose qui apparaît beaucoup en amour, ce truc d'illusion. Et je pense que c'est quelque chose qui est pas sain. C'est bien de faire marcher son imaginaire pour plein de choses, etc. Mais je pense qu'en amour, il faut pas rester en tout cas dans cet état trop longtemps. Parce que déjà c'est contre-productif, parce que tout ce truc qu'on s'imagine dans notre tête, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait dans la réalité, c'est vraiment quelque chose qu'on se crée soi-même dans sa tête. Et je pense que passer au niveau où vraiment il se passe des actions concrètes, où on voit la personne, où on a des discussions, où on a, je sais pas, par exemple des rapports intimes avec la personne, etc., c'est un tout autre level. Et là, on n'est vraiment pas du tout dans ce truc-là. Et je pense que c'est vraiment un état dans lequel il faut pas rester des mois et des mois sans qu'il se passe rien, quoi. Alors pourquoi c'est quelque chose que je conseille pas? Parce que déjà ça nous bloque, nous, dans notre vie personnelle, pour avancer. Ça nous fait avoir une fixation sur quelqu'un qui peut-être n'est pas faite pour nous, ou alors ou peut-être une histoire même brève ne nous conviendrait pas avec la personne en réalité. Et je pense que du coup, plus cet état dure, plus en fait on a une vision déformée de la personne telle qu'elle est, et on a une vision idéalisée. On la place un peu sur un piédestal. Et je trouve que du coup, ça nous met dans un rapport qui est déséquilibré, en fait, de rapport de force. De toute façon, en amour, je trouve qu'il y a quand même vachement ce truc de rapport de force, de la personne qui a un peu l'aval sur l'autre personne, de la personne qui a un peu le dessus au niveau des décisions ou des actes ou des choses comme ça. Il y a quand même souvent ce truc de dualité et de la balance qui penche un peu plus d'un côté ou d'un autre. Et je trouve que le rapport vraiment stabilisé 100% est super dur à trouver, voire quasiment inexistant même dans les relations longues. En tout cas, c'est mon avis sur le sujet. D'ailleurs, tout ce que je dis dans cet épisode, je préfère m'avancer en disant que c'est vraiment mon avis qui est certainement influencé par mes expériences personnelles, etc. et ma vision de l'amour et des relations. Donc moi, je pense que vraiment, comment faire pour se faire remarquer? Bah, il n'y a pas 500 000 façons de le faire. Je pense qu'il faut vraiment provoquer un dialogue. Si c'est quelqu'un que vous croisez, je sais pas, par exemple, au travail, en cours, même dans la rue ou autre, je pense que déjà juste dire bonjour à la personne avec un regard un peu appuyé, sourire à la personne, je pense que déjà ça peut être une première approche, on va dire, si la personne vraiment vous connaît pas. Déjà, ça peut permettre de se faire remarquer. Je pense qu'après, il y a des situations où c'est plus facile d'aborder quelqu'un. Par exemple, si vous êtes en entreprise ou que vous êtes, je sais pas, étudiant, c'est plus simple, c'est sûr, d'aborder quelqu'un dans une soirée ou un after work ou quelque chose comme ça que, je sais pas, si tu vas chercher ton pain le matin, par exemple. Mais je pense que vraiment, genre, il faut se faire un peu violence et passer le cap de ce truc de prise de contact. C'est pareil, d'ailleurs, si c'est sur les réseaux et que vous avez quelqu'un où il y a cette espèce de jeu un peu de séduction qui se met sur les réseaux. Quand j'entends jeu de séduction, c'est les trucs un peu relous mais présents depuis quelques années, de genre on se suit, etc. On interagit avec nos trucs et au final, il n'y a jamais rien de concret. Je pense que parfois, faut un peu provoquer le truc. Sinon, bah, encore une fois, on reste bloqué dans un truc qui n'avance pas. Et c'est clairement pas le but, même si t'es pas sûr d'avoir envie qu'il y ait une vraie relation ou même qu'il se passe quelque chose de super concret dans le temps, etc. Je pense que quand même, quand t'as une attirance comme quelqu'un comme ça, t'as envie au bout d'un moment qu'en fait, il se passe autre chose que juste, genre, je sais pas, vous vous croisez, vous vous regardez, il se passe rien, ou une fois tous les ans, vous interagissez à un contenu sur les réseaux. Enfin, franchement, c'est des trucs, ok, enfin, au bout d'un moment, faut passer à autre chose, quoi. Donc, je pense que vraiment, moi, je vous conseille, toutes les personnes qui sont un peu dans cette situation-là, c'est de prendre votre courage à deux mains, je crois que c'est ça l'expression, et juste en fait de se lancer. Et ok, ça fait flipper, ok, on peut se prendre une belle bâche dans la gueule, mais franchement, vaut mieux ça et au moins tu passes vite à autre chose plutôt que rester bloqué sur une situation qui n'avance pas. Et je pense que essayer de trouver des points communs avec la personne et commencer à, par exemple, engager la conversation autour d'un point commun ou d'une passion que vous auriez en commun, ça peut être une bonne façon d'engager la conversation. Mais si vraiment vous partez d'un niveau zéro où vous ne calculez pas du tout, je pense que déjà juste dire bonjour, c'est déjà une première étape dans le dialogue et ça peut être un peu le truc en mode ah bah tiens, pourquoi elle m'a dit bonjour cette personne? Et du coup, la personne va faire plus attention à vous en face et après vous pouvez créer ce truc plus facile de créer un dialogue. Alors ensuite, j'ai reçu un message auquel j'avais envie de répondre. C'est je ne sais pas comment avancer sans être une forceuse avec un mec qui je crois m'aime aussi. Alors, encore une fois, je vais vous reparler de ce truc de rêve. Je pense qu'il faut encore une fois pas rester dans ce truc de je crois que, je pense que, je sous-entends, je ressens que, j'ai l'intuition que. En fait, moi, s'il y a un truc que j'ai remarqué dans les relations hétérosexuelles avec les hommes que j'ai pu avoir, c'est que franchement les hommes, je vous jure, c'est pas des as en communication. Désolée s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, mais c'est un peu généralité, mais en tout cas moi, les hommes que j'ai connus dans ma vie, c'était un peu le cas. Et c'est souvent été moi qui ai dû provoquer les discussions, les dialogues et la communication. Et au final, souvent c'était réciproque, où il y avait ce truc qui était réciproque. Mais juste en fait, si moi je prenais pas le parti d'envoyer des messages ou provoquer la discussion en vrai ou bah, me lancer en fait, soit j'étais pas fixée, soit on restait dans un truc où personne ne se dirait jamais rien et du coup il se passerait jamais rien. Et franchement, je vous jure, enfin, on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps d'attendre comme ça des personnes dans notre vie, d'attendre des situations. Je pense que quand quelqu'un veut vraiment quelque chose avec vous, sincèrement, soit il va vous dire les choses et vous expliquer les choses de pourquoi c'est pas possible, ou alors bah go en fait et juste on perd pas de temps. Et quand je dis on perd pas de temps, attention, on n'est pas en train de se précipiter et tout de suite de vouloir se mettre en couple ou des trucs comme ça, mais juste en fait, enfin moi je pars du principe que quand t'as envie de voir quelqu'un, quand t'as envie de te lancer dans un potentiel truc, que ça soit juste un flirt, un coup d'un soir, une relation longue ou l'amour de ta vie par exemple, si ça existe. Je pense qu'en fait, il faut pas attendre, il faut pas avoir peur de la réaction. Je pense que parfois, il faut être capable de se prendre des bâches et de se dire, ok, bon bah c'est pas grave, enfin c'était pas réciproque, ça fait un peu mal, mais j'avance. Plutôt que vraiment rester dans des situations comme ça où on est bloqué. Enfin franchement, je sais pas, on n'a pas le temps en fait. Donc moi, mon ressenti, c'est si t'as l'impression d'être une forceuse, c'est que c'est un peu le cas. Je pense que moi, les fois où j'ai eu l'impression d'être un peu une forceuse, c'est qu'en fait, la personne en face n'avait pas spécialement envie. Ou Bah en fait ça valait pas trop le coup. Déjà j'ai pas eu trop l'impression d'être une forceuse dans ma vie, mais les moments où j'ai pu avoir ce ressenti-là, c'est qu'en fait bah, soit la personne n'était pas 100% honnête sur ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle avait envie avec moi, ou alors bah en fait la personne avait quelqu'un d'autre dans sa vie, ou hésitait, ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'en fait, n'aie pas peur d'être une forceuse et n'aie pas peur d'avoir les réponses à tes questions. Sans être oppressante non plus, tu vois, tu peux laisser la distance à la personne pour qu'elle réfléchisse et que bah elle sache aussi ce qu'elle veut, mais en même temps bah toi à titre personnel, t'as besoin aussi d'avancer et je pense que voilà, faut pas que t'aies peur de ça. Si toi t'as un ressenti que t'as que la personne t'aime aussi et que c'est réciproque, peut-être que la personne elle est juste en fait timide et que elle arrive pas ou que encore une fois c'est quelqu'un qui a du mal avec la communication etc. Donc franchement n'hésite pas à provoquer la situation, provoquer le dialogue et ça c'est la meilleure façon aussi de casser un peu ce truc d'obsession. Mais du coup ça me fait rebondir sur une troisième question de quelqu'un qui m'a dit j'ai une obsession sur un garçon mais il ne se passe pas grand-chose au final et j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de relation boomerang. Donc moi je pense que comment casser le cercle de l'obsession, c'est en créant une action. C'est super simple et j'ai l'impression que tout est fait maintenant avec les réseaux sociaux pour arriver dans ce truc d'obsession. On reçoit des notifs, on a 36 000 applications, on peut voir la vie de l'autre personne, on peut suivre le parcours de quelqu'un pendant des années sans qu'en fait cette boucle infernale entre guillemets s'arrête. Et il y a 36 000 façons de faire des appels de phare à quelqu'un sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, mais qui au final ne créent aucune réalité dans la vie. Et du coup, on peut facilement rester bloqué dans cette situation d'obsession. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui va freiner le fait d'avancer dans ta vie sentimentale. Et comment casser ce truc infernal, c'est vraiment bah, de mettre en place des actions pour en fait soit créer ce rêve justement dans la réalité, soit casser ce rêve et en fait te rendre compte que bah soit c'est un méga cauchemar, ou alors c'est genre juste une illusion et une relation qui n'était pas faite pour être vécue dans votre réalité à tous les deux. Donc vous cassez vraiment ce truc d'obsession. Je pense que au-delà du fait de enlever la personne de son piédestal, je pense que c'est important de encore une fois, en fait, franchement, je vous jure, les gars, la communication, il n'y a que ça de vrai dans les relations. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui communiquait beaucoup. En fait, c'était soit l'un, soit l'autre. Soit je me tairais dans le silence et je pouvais avoir des sentiments pour quelqu'un qui passait inaperçu, voire la personne pense que j'en ai rien à faire d'elle. Et ça peut durer des années comme ça. Ou alors, je suis genre hyper transparente et viens, vas-y, j'ai plus le temps et enfin, j'ai plus envie de prendre ce temps-là. Et j'ai juste envie que là, ok, il se passe quelque chose, ok, il se passe rien, bah ok, et puis tant pis, tu vois. Mais je pense que la communication, c'est vraiment super important, et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué qui m'a aidée pour tous mes types de relations, que ce soit mes relations longues quand il y avait des problèmes, ou au final, tu finis par te terrer dans le silence et il n'y a rien qui avance, ou alors ça casse parce que y a eu trop de non-dits, et du coup, bah ça crée une fissure et de l'éloignement entre vous. Ou alors dans les relations où tu sais pas trop ce que t'es avec la personne parce que au final bah tu te fréquentes comme un couple mais t'es pas vraiment un couple donc tu sais pas trop et c'est chiant et t'es un peu entre deux et tu sais pas trop comment te placer. Ou alors tu fréquentes quelqu'un et au final bah si tu communiques pas vous vous rendez compte que vous avez pas les mêmes envies, les mêmes attentes. Je pense que vraiment la communication c'est quelque chose qui résout beaucoup beaucoup de choses. Après ça s'apprend, communiquer en couple, etc. Moi j'ai commencé à relationner vraiment en couple quand j'avais 14 ans. Genre ouais je crois 14 ans. Ouais 14 ans j'ai eu ma première longue relation qui a duré 3 ans. Qui a une longue relation à 14 ans à part moi? Franchement il n'y a que moi qui ai des relations comme ça. Bref. Mais j'ai commencé vraiment très tôt à communiquer parce que je me suis dit en fait c'est pas possible déjà. Tous les hommes que j'avais en face de moi c'était des murs en communication et je me suis dit si c'est pas moi qui provoque le truc en fait ça sera jamais arrangé et vraiment s'il y a un dénominateur commun dans tous mes conseils c'est la communication les gars je vous jure ça change tout ça s'apprend il y a des techniques de communication on communique pas de la même façon avec telle ou telle personne selon son profil selon son caractère selon le background que tu peux ressentir aussi de la personne au niveau sentimental. Mais oui, voilà, je pense que communiquer, c'est quelque chose qui va vous aider à sortir de beaucoup de situations comme bah, tu kiffes bien quelqu'un, mais tu sais pas trop ce qu'elle pense. T'as l'impression d'être une forceuse, tout ça. Voilà, moi c'est vraiment le conseil que j'ai, c'est parler, parler, parler. Alors ensuite j'ai une question, comment se remettre d'une relation toxique? Alors, même si je n'aime pas trop parler de ma vie privée, j'ai quand même envie de vous parler rapidement d'une relation que j'ai eue il y a 10 ans, la vache, non, il y a un peu moins de 10 ans, un peu moins de 10 ans. Je suis restée 6 mois avec cette personne, et genre là on a vraiment baigné dans la relation toxique par excellence. Au début, donc c'était quelqu'un que je voulais pas forcément dans ma vie, même pas. Ouais, je voulais pas de cette personne dans ma vie. Et en fait, qui a su me séduire, on va dire. Au fur et à mesure, moi je suis quelqu'un de très cérébral, genre je pense que pour me plaire, tu peux être le plus beau ou la plus belle du monde. Je pense que vraiment, moi ce qui me séduit, c'est la conversation. Genre vraiment, si t'as de la conversation, qu'on a des points d'intérêt ou des choses comme ça, et que on peut refaire le monde jusqu'à 3h du matin, moi c'est vraiment ça qui va me séduire, c'est pas la beauté physique, même si bien sûr c'est quelque chose que je regarde. Mais ayant travaillé en agence de mannequinat où mon taf c'était de prendre les mecs les plus beaux du monde en photo toute la journée, de voir des corps toute la journée. Franchement, je vous jure que maintenant, la beauté physique, ça reste toujours quelque chose qui m'attire en premier lieu, mais c'est loin d'être quelque chose qui peut me faire rester. Voire, ça peut vraiment me refroidir et être un tue-l'amour si la personne est très belle, mais vide. Donc, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais la personne ne me plaisait pas spécialement physiquement en fait en premier abord, même si il était bien en vrai, mais juste, c'était pas ma came, on va dire. Moi, j'aime les hommes très grands. Et lui, il n'était pas très grand, donc c'est bête, mais juste ça, ça passait pas pour moi, en tout cas physiquement. Et à force de conversations, etc., j'ai commencé à me laisser un peu séduire et je suis rentrée dans le truc sans trop m'en rendre compte. Au début, notre relation se passait super bien, on avait une super complicité, franchement, on rigolait beaucoup. Je passais vraiment des moments un peu d'exception avec cette personne. Et d'exception, j'entends pas d'exception en mode premium, on va dire, mais d'exception. Des vrais moments de qualité où tu t'amuses trop, où tu passes vraiment des moments un peu hors du temps. Et en fait, de ça, je suis passée à ce truc d'horreur un peu où. Comment expliquer? Où la personne te fait petit à petit te sentir moins bien avec toi-même, perdre confiance un peu en toi, etc. Même si je l'avais jamais vraiment perdu au fond de moi, ma confiance en moi, c'était devenu quelqu'un qui jouait beaucoup avec ce truc d'estime de soi, en tout cas mon estime de moi à moi, et en plus qui avait une double relation avec une autre femme. Et du coup, je me suis retrouvée dans un espèce de triangle amoureux où il y avait ce truc de vengeance, machin, truc toxique, il te trompe, elle te trompe. Enfin, c'était vraiment, je vous jure, c'était un enfer. Cette relation, c'était un enfer. Et ça s'est fini en mode. Un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, non, en fait, ça sera plus possible. Ça sera plus possible. À partir de demain, c'est plus possible. J'avais accepté beaucoup de choses, dont des choses qui sont pas acceptables. J'avais changé, j'avais trop changé d'une façon où je me reconnaissais plus. J'étais passée de quelqu'un de bienveillante, cool, chill, etc., à quelqu'un vachement dans la vengeance, dans la. Enfin, pas vraiment vengeance, mais plutôt. Ouais, si, revancharde plutôt. Et bref, mon reflet ne me convenait plus. Pas physique, mais personnel, on va dire. Mental plutôt. Et vraiment, il y a eu un jour où j'ai eu un déclic. Et je sais pas, je me suis réveillée, je me suis dit, genre, je vaux mieux que ça. Et moi, je sais que pour ce genre de choses, quand j'ai besoin de sortir d'une relation, la distance, ça compte beaucoup pour moi. La distance physique. Que ce soit sur les réseaux, mais bien sûr aussi en physique, en vrai. Moi, je place beaucoup de distance. Quand j'ai besoin d'oublier quelqu'un, c'est distance, distance, distance. Je disparais, je peux disparaître comme ça à jamais. Du jour au lendemain. Je suis comme ça et c'est moi ce qui m'aide à passer à autre chose. Donc avec cette personne, comment ça s'est terminé? On s'est vu comme si un jour normal, en mode couple entre guillemets, parce que c'était, je sais même pas si c'était un couple à la fin. Bref, C'était la cata. Et le mec part de chez moi et je lui dis, bon bah écoute, ça sera la dernière fois qu'on se voit. Je l'ai quand même prévenu, hein. Franchement, j'ai été faire. Je lui dis, c'est la dernière fois qu'on se voit. Et en fait, il a tellement été habitué à ce que ça soit, on soit dans ce genre de situation, genre, fuis-moi, je te fuis, blesse-moi, je te blesse. Vous voyez ce genre de truc que du coup, vraiment, il m'a pas pris au sérieux. Sauf qu'en fait, à partir de ce moment-là, je suis rentrée, parce que j'étais pas à Paris à ce moment-là, et je suis rentrée à Paris. Et j'ai coupé tout contact avec cette personne. Donc c'était pas un ghost parce que pour le coup je l'ai prévenu. J'ai même dit adieu en mode drama queen. Mais vraiment j'étais sûre de plus vouloir le voir et que ça serait fini à jamais. Et j'ai tenu parole et ça s'est fini à jamais avec cette personne. Et moi ça a été ma façon de couper contact avec cette personne toxique, d'arrêter ma relation. Après ça il y a eu un peu une période de reconstruction parce que bah je pensais pas avoir été autant impactée par cette relation, mais ça a été le cas. Pendant, je dirais, de nombreuses années quand même, où j'ai eu un impact de cette relation. Déjà, j'ai fait un rejet un peu d'une relation sérieuse par la suite. J'avais vraiment besoin d'être tranquille, seule, etc. Et c'est après ça que j'ai commencé à faire de la photo. Je pense que j'avais besoin un peu de me reconnecter avec moi, avec ma force, avec ma confiance en moi, avec plein de choses. Et du coup, j'ai vraiment décidé de, ouais, me remettre dans ce truc de focus sur moi-même. C'est là aussi où j'ai commencé à lire énormément de bouquins en développement personnel. Et je pense que ça a été vraiment, en fait, je pense que c'est l'une des pires relations de ma vie, mais en même temps, ça a été l'une des plus formatrices et une de celles qui m'a le plus construite. Parce qu'en fait, elle m'a tellement déconstruite et elle m'a tellement, je sais pas si je dirais détruite, c'est un peu fort comme mot, mais pas loin quand même. Que du coup, je repartais sur des bases où je devais totalement me redécouvrir et je devais totalement repartir de zéro. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à ressentir genre une force en moi qui, où j'étais la seule à que j'étais la seule en fait à pouvoir me procurer. Et voilà, moi, ma relation toxique, ça a été la plus grande découverte de moi-même par la suite. Et c'est pour ça que je la regrette pas. Et que je la vois avec beaucoup de bienveillance, que j'ai pardonné la personne pour ce qu'elle m'a fait, pour moi, avancer correctement. Et parce que je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Et que voilà, je devais être avec cette personne pour apprendre des choses sur moi-même. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je pense que pour se remettre d'une relation toxique, déjà, il faut couper court à tout contact, si possible. Parce que je sais que parfois, il y a des situations où ce n'est pas possible. Par exemple, si on a une garde partagée pour un enfant. Ce genre de choses, ou si on a des attaches aussi avec de l'argent, enfin financière au début avec la personne, enfin je sais que c'est pas évident quand on habite avec la personne, etc. par exemple au début, mais en tout cas si vous en avez la possibilité, tout de suite ou après, vraiment couper tout contact avec la personne. Ne laissez aucune chance à cette personne de rester dans votre vie, de revenir dans votre vie aussi, c'est important. Encore une fois, je parle des réseaux, mais je vous jure, franchement, les réseaux, c'est la porte ouverte au retour des gens qu'on n'a pas envie de voir dans notre vie. Et je pense que c'est super important. Moi, c'est des personnes que, enfin, avec lesquelles j'ai coupé tout contact. D'ailleurs, mes ex, en général, je ne suis pas en contact avec eux. En tout cas, si je suis en contact avec quelqu'un, c'est que j'ai décidé de garder un contact avec cette personne-là. Sinon, je suis plutôt du genre à couper tout contact parce que j'ai rien à te dire, en fait. Enfin, si on n'est plus ensemble, c'est que voilà. Et j'ai pas spécialement envie de savoir ce que tu deviens. On a vécu une belle histoire ou une moins belle, mais c'était bien ou c'était pas bien d'ailleurs. Mais juste voilà, c'est le passé et moi je reste pas dans le passé indéfiniment. Sauf si j'en ai décidé ainsi. Et à ce moment-là, c'est parce que potentiellement il y a quelque chose qui se passe ou qui pourrait se passer dans le présent ou dans le futur. Mais en tout cas, voilà, moi il n'y a pas de retour du passé, etc. Sinon possible, c'est pas possible. Et je pense que c'est vraiment important pour passer à autre chose. Déjà, pour une relation toxique, c'est la première étape. Et pour moi, la deuxième étape, c'est vraiment l'étape de reconstruction. Et je pense que c'est important de ne pas se reprécipiter dans une relation tout de suite. En tout cas, moi, c'est mon ressenti parce que je pense que quand on sort de ce genre de relation, on a vachement ce truc de reconstruction à faire tout seul avant d'avoir un terrain un peu plus neutre, en fait, pour accueillir quelqu'un dans sa vie, potentiellement une nouvelle relation ou autre. Et je pense que c'est important aussi de d'abord se réapprendre à s'aimer, réapprendre à retrouver sa force seule avant de de compter sur quelqu'un pour aussi nous apporter des choses dans notre vie. Je pense que c'est déjà important de réapprendre à se réapporter la totalité de ce dont on a besoin en fait tout seul. Et mon troisième conseil, ça serait également de consulter un professionnel de santé si vous en ressentez le besoin et que ça devient trop difficile pour vous de gérer ça tout seul. Je pense qu'il y a un vrai tabou en France sur la santé mentale, sur la psychologie, même si j'ai l'impression que ça évolue un petit peu. Moi, je suis la première à dire à mes potes, à tout le monde, ma famille, allez voir les psys, allez voir les psys, allez voir les psys. Moi, j'y suis allée plusieurs fois. Franchement, je trouve ça génial. Déjà, j'adore parce que je peux parler et la personne est obligée de m'écouter. Ça, c'est génial. Genre, je peux parler pendant des heures. Enfin, des heures. Ça coûte très cher, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, je peux raconter ma vie. Quel bonheur. Sans jugement, sans que personne ne me connaisse. C'est trop bien. Franchement, j'adore, moi. J'adore voir des psys et tout, j'adore. En plus, ça m'intéresse vachement la psychologie, donc pour moi, c'est vraiment passionnant. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à faire si vous avez des traumatismes, des choses comme ça. Moi, je vois beaucoup de personnes dans mon entourage, malheureusement, qui n'osent pas y aller et qui en auraient besoin suite à des relations, justement, de ce type. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, si vous en avez la possibilité de le faire, qui est important à mon sens. Alors, ensuite, j'ai une question. Un mec m'a DM et m'a avoué ses sentiments. 2 semaines après, j'apprends qu'il est en couple et qu'en même temps, il flirte aussi avec d'autres meufs. Alors déjà, je pense que un truc qu'on a tendance à oublier dans les relations, c'est que les personnes peuvent changer d'avis. Tu peux penser quelque chose et vouloir quelque chose à un instant T et 4 jours après, en fait, bah, t'es plus sûr de toi et tu changes d'avis. Et c'est super dur à accepter, parce que surtout quand toi, c'est quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. Mais en fait, on est des êtres humains et les êtres humains ne sont pas contrôlables. On n'est pas encore des machines, on n'est pas encore des robots en tout cas. Et je pense que c'est important de se rendre compte que tu ne peux pas maîtriser les émotions de quelqu'un, tu ne peux pas contrôler la personne, tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose que toi, tu as envie de faire. Ça c'est super important à prendre en compte. Donc effectivement, quelqu'un peut te dire qu'elle a des sentiments pour toi et 2 semaines après être en couple avec quelqu'un et flirter avec d'autres personnes. Et oui, je sais, c'est bizarre à entendre, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Déjà parce que tu n'es pas dans la tête de la personne. Peut-être que la personne elle est en couple avec quelqu'un, mais qu'elle est en couple parce que elle a une dépendance affective, parce que elle a besoin de combler un vide, parce que en fait elle hésite. Et qu'elle est avec quelqu'un et au final ça se passe pas très bien. Je vous rappelle aussi que ce qu'on voit sur les réseaux, ce n'est pas la réalité. Les couples qu'on voit sur les réseaux, moi il y a 36 000 couples que je vois, notamment chez les influenceurs, des gens que je connais, où t'as l'impression que ça se passe trop bien et en fait t'apprends genre 3 semaines que ça fait 2 mois qu'ils sont séparés et qu'ils font genre sur les réseaux pour leur collaboration. Ça arrive très souvent, hein. Franchement, vraiment ça arrive très souvent. Moi-même, j'ai déjà été dans une relation où de temps en temps, je pouvais mettre des stories, des trucs comme ça. Et au final, derrière, ça se passait pas bien et j'étais pas épanouie. Et c'est quelque chose. C'est pour ça aussi qu'on ne voit plus rien du tout de ma vie privée sur les réseaux. Parce que je n'ai plus du tout envie d'afficher quoi que ce soit. Après, quand je le faisais, j'étais pas dans ce délire de créateur de contenu et tout. Enfin, j'étais pas. C'était pas mon métier, quoi. Donc c'était un peu différent. Mais en tout cas, je sais que moi, je veux plus du tout afficher ça. Et c'est pour des raisons parce que. Voilà, les choses ne sont pas forcément la réalité, donc c'est pas parce qu'il est en couple que déjà il est bien en couple. Et aussi, si en plus il continue de flirter avec d'autres meufs alors qu'il est en couple, bah c'est que son couple ça se passe pas bien, parce qu'en vrai, un couple où ça se passe bien, la fidélité fait partie du couple. En tout cas, la fidélité, quand c'est quelque chose, quand on est dans une relation. Ou on est dans une relation à deux. Parce qu'il peut y avoir des relations où tu ouvres ton couple et dans ce cas-là, bah, c'est acté et tout le monde est OK des deux côtés. Donc c'est un autre sujet. Mais là, voilà, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Donc pour moi, en tout cas, s'il est en couple, qu'il flirte avec d'autres meufs, qu'il t'avoue ses sentiments, mais le mec, il est perdu en fait. Il est perdu ou c'est pas une bonne personne, en tout cas sentimentalement parlant. C'est possible aussi, c'est aussi quelque chose d'envisageable. Mais en tout cas, clairement... Franchement, ouais. Enfin, éloigne-toi, quoi. Parce que flemme. Là, il y a trop de problèmes. T'imagines, en 160 caractères, tu m'as donné trop d'informations. Là. C'est pas possible. Donc, ouais, franchement, non, ça, c'est bourbier à mort. Et c'est bourbier. C'est bourbier, bourbier, bourbier. Donc, franchement, prends tes distances. Si le mec qui revient plus tard, qu'il a plus sa meuf, qu'il flirte pas, machin, qui sait ce qu'il veut, ok, pourquoi pas. On pourrait envisager un truc si t'en as envie, mais là, franchement, next, quoi. Next, tu mérites mieux. Ça fait un peu réponse à la va-vite et tout, mais franchement, je vous jure, parfois, faut juste savoir se dire, bah, Il n'y a pas 36 000 explications ou excuses à trouver à quelqu'un. Je pense que juste dans ce genre de situation, faut juste réussir à passer à autre chose. Alors ensuite, je voulais parler un peu plus de questions où on est vraiment dans des relations concrètes aussi. Comment laisser plus de liberté à l'autre dans le couple? Alors je pense que un truc hyper important à avoir en tête, c'est qu'un couple, c'est une personne plus une personne égale une autre personne, qui est cette troisième personne qui est votre couple que vous formez à deux en fait. Il y a ce truc à garder en tête de... j'ai l'impression que souvent, enfin, beaucoup de problèmes que je vois dans les couples, c'est ce manque d'espace en fait qui est laissé à l'autre pour évoluer en tant que personne aussi à part unique en fait. Je pense que c'est super important de toi garder ton univers, la personne en face garder son univers. Et que vous ayez votre univers en tant que couple et que vous vous construisez presque en tant qu'une troisième personne en fait qui gravite autour de vos deux univers. Tu peux avoir des fusions forcément de vos deux univers qui se rassemblent pour former cette troisième personne, mais en fait vous ne devez pas vous définir que par cette troisième personne et c'est souvent la problématique que je vois dans beaucoup de couples, c'est l'oubli en fait de l'autre et de son univers à part entière en tant que personne. Moi je sais que quand je suis en couple, je laisse une liberté totale à l'autre de s'exprimer, d'être ce qu'il veut, tant que ça reste dans le respect et qu'il y a un minimum d'attention et de moments qu'on partage en fait à deux. Je pense que ça c'est important. Et comment laisser plus de liberté? Je pense que tout simplement en fait, quand tu fais un focus autant sur l'autre personne, en te posant cette question-là de merde, comment je laisse plus de liberté à l'autre parce que là, peut-être que je me sens un peu oppressante et tout, et que je sens que je l'étouffe, c'est peut-être justement parce que toi, tu t'oublies en fait dans l'histoire, et que tu oublies que toi aussi, t'as ton univers à toi. Donc je pense que, essaie de retourner la question, et comment moi, je me laisse plus de liberté d'être, et après, en fait, de ça va découler ce truc où, naturellement, en prenant plus de place pour toi, en consacrant plus de place pour toi, tu vas en fait laisser naturellement plus de liberté à l'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment l'idée de voilà, changer ta perception de la chose et vraiment te refocaliser sur toi. Et naturellement, du coup, ça va laisser plus d'espace à l'autre pour s'exprimer, plus de liberté, plus de temps libre, etc. Mon mec me reproche sans arrêt des choses que je sais que je ne pourrais pas changer. Alors ça, c'est un problème aussi que je trouve très présent dans les couples, notamment les couples un peu longue durée, que moi aussi j'ai déjà vécu. Ce truc de vouloir façonner la personne de la façon dont on a envie, de la rendre un peu malléable pour la sculpter un peu de la façon dont on trouverait que ça nous apporterait le plus. En fait, je pense qu'il y a une différence déjà entre les efforts et le déclic. Les efforts, c'est des choses que tu vas mettre en place et qui vont pas durer dans le temps. En mode, je fais un effort ponctuel pour répondre à une difficulté dans une situation. Et un déclic, c'est j'ai une prise de conscience qui va faire que en fait, c'est moi qui vais changer totalement et ça va pas être un effort qui va être temporaire dans le temps. Pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, quand on a quelqu'un qui nous reproche quelque chose ou alors qu'on reproche quelque chose à quelqu'un, la personne en face va dire bon bah je vais peut-être faire des efforts, ok, bah j'entends ce que tu me dis, je peux essayer de faire ça, machin, mais en fait ça dure pas dans le temps parce que y a pas ce déclic vraiment de vouloir changer au plus profond de soi-même et qu'en fait la seule personne qui peut vraiment changer parce qu'elle en a envie, c'est d'avoir ce truc de ok bah là c'est vrai que la personne en face elle a peut-être raison et ok bah en fait ça me fait un électrochoc et je sens que je vais changer. Donc si toi tu sens que ce que ton mec te reproche, c'est des choses que tu ne peux pas changer parce que c'est pas toi, parce que t'en as pas envie, parce que tu t'en sens pas capable, bah c'est peut-être un peu cash ce que je vais dire, mais c'est peut-être que tout simplement vous n'êtes pas fait pour être ensemble en fait. Vous pouvez avoir de l'amour, des sentiments, beaucoup d'affection, je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais moi j'ai déjà vécu ça. Et tu peux avoir beaucoup de respect pour quelqu'un, se sentir bien avec la personne, mais juste en fait vos compatibilités ne sont pas faites pour durer en fait. Tu peux t'apporter des choses sur un moment, etc. Mais tu ne peux pas changer pour quelqu'un si tu n'as pas un déclic et une vraie envie de changer. Attention, je dis pas que personne ne peut évoluer et que faut prendre les gens comme ils sont et basta basta. Je pense que c'est bien aussi de savoir se remettre en question et d'évoluer et de pouvoir changer parce que quand on est en couple, de toute façon, je trouve que quasiment dans tous les couples que j'ai vécu, moi, j'avais quand même au bout d'un moment des choses qui changeaient grâce à mes ex. Je changeais quand même sur certains aspects. Mais voilà, les reproches, au bout d'un moment, si toi, t'as pas ce déclic-là, il n'y aura rien qui fera que ça va durer parce qu'en fait, toi, ton mec sera pas content parce qu'il aura des choses qu'il veut que tu changes et toi, t'as pas ce déclic-là et t'en as pas envie en fait au fond de toi. Donc, je fais quoi? Moi, sincèrement, je vais pas prendre de pincettes et je te dirais, je remets ma relation en question en fait. Est-ce que, au-delà des sentiments, parce que je pense qu'il y en a quand même de ce que je ressens de ton message en tout cas, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de est-ce que c'est une relation qui est faite pour vous? Dans les deux sens. Bon les gars, on passe à la dernière question. Je n'ai aucune idée de à combien de questions je suis, à combien de durée d'enregistrement de podcast je suis. Je pense que cet épisode il va être super long en fait. L'enfer, désolée. J'espère que ça vous intéresse quand même parce que... En fait, je crois que c'est un sujet qui m'inspire. En fait, j'aime bien le sujet de l'amour en vrai. Soyons honnêtes. Bref, dernière question. Alors là, c'était compliqué, hein. J'ai eu des vocaux les gars, j'ai dû résumer. Mais une histoire, c'était long et j'espère que j'ai retranscrit à peu près ce que tu avais en tête, ce que j'ai un petit peu essayé de décrire au moment où tu parlais tout en résumant pour que ça soit pas trop long. Alors, donc, en ce moment, j'aime deux hommes. On flirte beaucoup ensemble. Ils m'ont sorti des phrases ambivalentes. Je leur ai déjà demandé est-ce qu'on est en couple ou pas et ils m'ont tous les deux dit oui. Ils sont hétérosexuels, donc moi je vis mes relations toxiques à fond. Je ne sais pas si je suis amoureux d'eux. Et j'ai en plus un gros problème d'identité de genre. Je suis soit trop féminin pour beaucoup de gays, mais pas assez féminin pour certains hommes gays et pour les autres. Et je suis souvent dans des situations similaires de mecs qui me draguent et moi je ne sais pas quoi faire. Ok, alors déjà, moi, j'ai analysé ton message. Il y a un truc que j'ai remarqué. Tu dis on. On flirte beaucoup ensemble. Ils m'ont sorti. Je leur ai déjà demandé. Ils m'ont dit oui. Ils sont hétérosexuels. Est-ce que tu as remarqué que dans ta façon de t'exprimer de ces deux personnes, tu les mettais sur un truc de dépersonnification où en fait ces deux personnes forment une seule personne? C'est-à-dire que je ne sais pas plus ni sur l'un ni sur l'autre, ni pourquoi tu l'aimes lui et pourquoi tu l'aimes l'autre. En fait, c'est une espèce de mâchouillis entre les deux. Et du coup, c'est... En fait, ils ont plus de place ni pour l'un ni pour l'autre. Du coup, bon, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, hein, je suis pas psychologue et tout, mais moi, mon ressenti que j'ai de tes messages, c'est vraiment ce truc de, en fait, tu n'es pour moi, parce que tu sais pas si t'es amoureux d'eux, pour moi, tu n'es pas amoureux ni de l'un ni de l'autre, c'est mon analyse, hein, peut-être que je me trompe, parce que tu n'es pas capable encore de faire la distinction entre les deux, en fait. Et c'est, tu vois, enfin, je pense que si tu m'en avais parlé de, je sais pas dire, je sais pas, par exemple, Pierre est comme ça, gna gna gna, c'est pour ça que, voilà, et Paul, il m'apporte ça, 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 et du coup, je suis complètement perdue entre les deux, parce que, il y en a un qui m'apporte quelque chose, et l'autre qui m'apporte quelque chose, là, j'aurais compris, et moi, j'ai déjà été dans une situation similaire, et je sais à quel point c'est horrible, et c'est horrible, c'est horrible. Franchement, avoir le cul entre deux chaises, c'est horrible. Vraiment, je vous conseille pas de le faire. Si vous sentez que vous rentrez dans une espèce de triangle amoureux, fuyez, fuyez vraiment. Franchement, moi je pense, enfin ce qui en ressort de ton message, c'est vraiment ce truc de, il faut que tu limites, que tu coupes. Alors je sais que les deux sont des amis en plus, je crois, hein, de ce que j'ai bien compris. Mais je pense qu'il faut que tu coupes ce rapport de drague parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'engagement ni dans l'une relation ni dans l'autre parce que t'es pas encore capable de faire la distinction entre les deux et tu les relis en fait sur une espèce de fusion de deux personnes et c'est vraiment pas sain. Mais je pense que de toute façon t'en as conscience. Et je pense que tu vois, on est passé de tu me parles d'eux à au final tu refais un focus sur toi à la fin de tes messages où tu me parles de ton problème d'identité de genre, du fait que t'as du mal à trouver ta place dans ce milieu où justement t'es soit trop quelque chose, toi pas assez quelque chose. Et du coup, tu sais pas trop à qui tu plais en fait. Donc, quand on sait pas à qui on plaît, on essaye de plaire un peu à tout le monde. Tu vois ce truc? Et je pense que vraiment, il faut que tu te refocuses sur toi, sur ta construction justement. Je pense que ton identité de genre, moi, je n'ai pas ces problématiques. Donc, je serai jamais dans tes chaussures. J'aurai jamais ton expérience, ton ressenti et toutes les cartes en main pour en parler de la façon la plus proche de la réalité et de ta réalité. Ça, c'est certain, donc je serai jamais dans tes chaussures. En revanche, il y a une chose dont je suis quand même persuadée, c'est que avec 7 milliards de personnes sur Terre, à peu près, je crois, t'as toujours quelqu'un qui va être là pour t'aimer et quelqu'un qui sera... où tu seras pas trop pour lui, tu vois. Et je pense que là, t'es un peu dans une situation où, au final, on t'apporte un peu d'amour et d'attention de deux côtés, sauf qu'au final, t'as personne qui te convainc assez pour être focus que sur une personne. Et au final, ça te projette un peu ce truc de manque d'amour de toi-même et de recherche de toi-même qui, où il y a encore, je pense, du travail, de toute façon, de... Qui tu es en fait, qui tu es vraiment dans tout ça, qu'est-ce que toi tu as envie dans ta vie. Et je pense que ça c'est vraiment un problème que moi je vois beaucoup beaucoup dans mes amis qui sont gays aussi, ce truc de se faire draguer par des hétéros. Et j'ai aussi des copines qui sont lesbiennes, qui sont aussi beaucoup draguées par les hétéros. Et je sais à quel point ça peut être blessant et compliqué. Mais encore une fois, tu ne peux pas avoir un impact et surtout pouvoir changer des gens qui ne sont pas déconstruits, qui ne sont pas prêts à peut-être ouvrir leur sexualité sur des nouvelles voies qui peut-être les attirent et pour lesquelles ils ne sont pas encore prêts à assumer, on va dire. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu te préserves et que tu te refocalises sur toi et que tu continues cette construction d'identité. Et que tu fuis un peu ce genre de relation qui, au final, t'apporte que, je pense, du mal-être et des espèces de bonheur un peu éphémère et bien-être éphémère. Mais en tout cas, voilà, j'entends toutes ces remises en question et toute la difficulté de la situation. Et je compatis, en vrai. Mais voilà, je sais, en plus, je te connais, donc spécial message pour toi parce que tu sais que je t'aime très très fort. Je sais à quel point t'es une personne géniale et je sais aussi qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui t'acceptera pour qui tu es, sans contrainte, sans trop ou pas assez, et je sais que ça viendra. Voilà, sur cette petite note d'amour, on va finir cet épisode maintenant parce que sinon je pense que là on va arriver à une heure d'épisode et ça va vraiment faire trop long. J'espère en tout cas que ça vous a plu, franchement j'ai trop kiffé faire cet épisode, donc je pense que je ferai une deuxième version. Comme je vous ai dit, j'adore donner mon avis sur les problèmes sentimentaux des autres. C'est plus simple de faire ça que de gérer ma vie sentimentale, on va dire. Donc je préfère m'enfermer dans vos problèmes et plutôt que checker moi ce que j'ai à checker. Bref, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao !